Bonsoir à tous. Merci à Attac, merci à Stoplinky de nous avoir invités. J'ai bien compris que c'était la troisième causerie à laquelle vous assistiez sur Linky, donc maintenant vous devez être fort savant. Et on se demande si on a encore des choses à vous enseigner. Bien entendu, après, il est non seulement vous pouvez poser des questions, mais vous pouvez intervenir. Enfin, je veux dire, on est très heureux si des gens ont des points de vue à faire valoir, des informations à apporter, et même à nous remettre en cause, ça ne nous pose pas de problème, on répond, on est là pour parler ensemble. Pour nous présenter rapidement, on n'est pas un collectif, vous pouvez le constater par vous-même, on est une activité, d'enquête à Grenoble depuis une vingtaine d'années. Et les gens qui nous connaissent un petit peu, les amis qui nous connaissent un petit peu, comme le copain là au quatrième rang, en général, ils nous ont classés dans les spécialistes des technologies. Parce qu'on s'est fait connaître à l'origine en critiquant les nanotechnologies au moment où on commençait à les implanter à Grenoble. On a fait des campagnes, on a fait des manifestations, etc. Et puis les bouquins qui s'en sont suivis. Et en fait, non, on n'est pas des spécialistes des technologies, on est des généralistes de la politique. Mais nous sommes des généralistes de la politique à une époque, et quand on est à Grenoble, dans un lieu où la technologie a chassé la politique, où la technologie remplace la politique dans tous ses aspects. La technologie, si vous y réfléchissez un petit peu, une minute, deux minutes, tout de suite vous allez acquiescer. Change nos villes, change nos vies, change le monde, change nos rapports entre nous, pensez au téléphone portable par exemple, change notre rapport à nous-mêmes. Et quand on change tout ça, quand on intervient dans tous ces domaines, eh ben, ça s'appelle de la politique. Simplement, c'est de la politique qui n'est plus de la politique, c'est de la technologie. Et ce n'est pas questionné, ce n'est pas discuté collectivement. Donc, c'est la politique qui, en fait, est post-politique. Bon. Et qui que vous soyez des électeurs, de simples citoyens, votants ou non, des élus, des conseillers municipaux, le maire, le député, le président de la République, etc., vous pouvez maintenir une fiction, vous pouvez maintenir une vitrine, un décor de démocratie. Hein, on a l'impression qu'on vote pour des gens qui s'écharpent sur des sujets extrêmement sérieux, et même s'il y a de moins en moins de votants, il y a quand même toujours autant de passion autour des campagnes électorales et des postes de représentants, disons. Mais dans la réalité, tous les élus sont flanqués de leurs technocrates, de leurs experts, de leurs spécialistes, qui font le travail en amont à côté d'eux et qui leur dictent leurs solutions, les uniques meilleures solutions. Et c'est bien logique, puisque dans une société technicienne, dans une société technologique, eh ben, toutes choses étant égales par ailleurs...
Je vais peut-être crier un peu moins fort. Toutes choses étant égales par ailleurs, donc il faut que je me retienne. Il n'y a jamais qu'une seule meilleure solution. Et cette unique meilleure solution... Eh bien, évidemment, c'est les spécialistes du domaine en question qui la déterminent. Charge aux élus, aux députés, aux représentants, etc., ensuite de venir vous expliquer à vous pourquoi cette solution est la meilleure. Donc, en fait, ils sont les communicants de leurs technocrates. Et pourquoi on ne peut pas faire autrement. Et donc, quel que soit le domaine concerné dans la vie moderne, on vit sous une dictature qui ne dit pas son nom, hein, la tyrannie technologique. Et ce qu'on croit de moins en moins, à vrai dire, être une démocratie, en fait, c'est une technocratie. Nous vivons en technocratie. Si on veut qualifier exactement, précisément, le régime social sous lequel nous vivons, c'est la technocratie. Ces choses étant dites, nous, on s'est intéressé donc... à Linky, dans le cadre de notre enquête générale sur la technologie, on fait pas mal de réunions chaque année, on fait des publications, etc. Et on parle devant des salles, et à un moment donné, on avait abordé le sujet de la smart city, du big data, etc. Enfin, ces choses qui, à un moment donné, paraissent complètement ésotériques, comme les nanotechnologies, on ne sait pas du tout de quoi ça parle, on n'y comprend rien. C'est très difficile de l'expliquer aux gens. Et puis, à un moment donné, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a eu un moment de bascule. Et tout le monde voit très bien de quoi il s'agit. Un petit peu comme les ordinateurs et les smartphones. Il y a 10 ou 15 ans, il y avait que les gamins qui savaient se servir de l'ordinateur, surfer, envoyer des messages, faire des photos, etc. Et puis, à un moment donné, tout le monde baigne dedans. Et seuls les attardés comme moi n'ont pas de smartphone et ne savent toujours pas comment s'en servir et comment acheter un ticket de bus en envoyant un SMS. Maintenant, on fait ça. Et donc, on cherchait un exemple et ma compagne disait aux gens « Mais vous savez, bientôt, il va arriver un truc qui s'appelle Linky. Vous devriez vous intéresser. Ah bon, Linky, c'est quoi ? Compteur, etc. Bon. » Et on en a parlé pendant plusieurs années. On a enquêté là-dessus. On a fait tout un tas de textes, des brochures. C'est un petit peu pour ça qu'on est très présent dans ce mouvement. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est branché sur Linky, si j'ose dire, et qu'on a été amené à produire des textes là-dessus et à faire ces conférences. Bon. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, Linky, pour nous, c'est un petit objet misérable. C'est presque rien. C'est étonnant que ça fasse tant de bruit. Hein. J'avais pris l'habitude depuis quelques semaines de le comparer à un bouton que vous auriez sur le nez, parce que j'avais un bouton sur le nez il y a quelques semaines. Bon, vous avez un bouton sur le nez, c'est embêtant, c'est disgracieux, mais c'est minuscule. Éventuellement, vous mettez un peu de méoplasmine, ou bien vous allez à la pharmacie, ou bien vous allez voir votre médecin, et puis ça ne marche pas, il va vous donner une ordonnance pour aller voir le dermato, vous allez voir le dermato, on refait d'autres examens, et on vous dit « Ah, monsieur, mauvaise nouvelle, c'est un mélanome ». C'est plus pareil. Subitement, on est passé d'un petit bouton sur le nez, hein, d'un minuscule symptôme, à une perspective de cancer. Bon. Linky, c'est ce petit bouton sur le nez, et le cancer, c'est la société électrique. Il a fallu la société électrique pour qu'on arrive à Linky. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on arrive à la société électrique ? Eh bien, c'est la question... Pardonnez-moi. C'est la question de l'énergie et des machines. Je vais vous faire un peu d'histoire, remonter un petit peu faire la généalogie de Linky, la généalogie de l'électricité, bon. M'intéresser un petit peu aux causes de Linky, si vous préférez, et ma compagne vous fera l'actualité et le futur, et donc les conséquences de Linky. Ne vous effrayez pas, mais on va remonter à Jules César.
C'est normal ici.
Il y a 2000 ans ça, en Angleterre, en Grande-Bretagne, les Grands-Bretons se chauffaient déjà au charbon. Le charbon existait déjà, et on s'en servait déjà dans les forges industrielles. Ça servait déjà aux artisans, ça servait déjà dans les temples, etc. Et ça a servi pendant des siècles. Bon. Et puis, au moment du Moyen-Âge, on s'est branché sur une autre source d'énergie qui était...
C'est pas nécessaire.
C'est pas moi.
C'est l'électricité. Hein.
Et monsieur technicien ?
Pas le micro. C'est l'électricité.
Bien. Et puis, à l'époque du Moyen-Âge, au plus haut Moyen-Âge, puis tout ce qu'on appelle la révolution industrielle du Moyen-Âge entre le 9e et le 12e siècle, l'énergie... est apparue une nouvelle énergie qui était l'énergie hydraulique, bon, qui a servi à faire tourner les moulins. Bon, il y a l'éolien, mais l'hydraulique. C'était énorme. Ça a duré 2 siècles, 3 siècles. Il y avait des moulins partout, et ces moulins actionnaient des machines, de vraies machines, avec des engrenages, avec des canaux. Bon. Et ceux qui étaient très forts pour ça en particulier, c'était les monastères. Les cisterciens, tous ces gens-là, ont couvert l'Europe non seulement de monastères,
mais d'officine. Officine. En Picard, Ushine. Et de Ushine à usine, voilà. L'officine a fait l'Ushine Picard, a fait l'usine. Bon. Et pour vous donner un exemple, sur le petit territoire de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, entre la rue du Dragon, le Flore, etc., minuscule, dépendant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
il y avait 59 moulins. 59 moulins qui faisaient tourner donc toutes sortes de machines, des machines à broyer, des machines à fouler, des machines à tisser, des machines à scier, et ainsi de suite. Bon. Et c'est aussi les débuts du capitalisme. À Toulouse, au XIIe siècle, XIIIe siècle, se fonde une société qui s'appelle la Société du Bazac, et qui, les gens viennent, c'est des bons bourgeois de Toulouse, et ils mettent chacun de l'argent, ils font des parts, ils font une société par part, et ils font construire un barrage et des moulins sur la Garonne. Bon. Et cette société, elle se perpétue, on peut vendre les parts, les parts c'est des actions, hein, ça s'appelle, dans le patois local, ça s'appelle des uchots, on peut les transmettre à ses descendants, on peut les vendre à des investisseurs institutionnels comme les couvents, par exemple. Les couvents achètent des parts dans la société du Bazac, ça leur fait des revenus, ces revenus servent à entretenir les pensionnaires des couvents, et ainsi de suite. Bon. Ça dure comme ça pendant quelques siècles. Et en Angleterre, berceau du décollage industriel, il y a énormément de moulins et de fabriques. Ces moulins et ces fabriques sont généralement situés dans les zones montagneuses. Ça se comprend parce que la pente permet de donner de la force au courant, la force du courant permet de faire tourner les machines, et ainsi de suite. Mais s'il y a beaucoup de courant et beaucoup de force hydraulique, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Et le défaut de main-d'œuvre rend celle-ci chère. Il faut payer les ouvriers, il faut payer les contremaîtres, il faut les faire venir, il faut les loger, il faut les nourrir. Et tout ça attaque gravement les bénéfices des entreprises et du patron. Donc ça pose un problème. On a affaire à des ouvriers, à un personnel qui a un fort pouvoir de négociation et qui ne se fait pas faute de l'utiliser. Il en est ainsi jusqu'au moment où les bourgeois anglais, les patrons, les entrepreneurs, les capitalistes, les industriels, trouvent une parade technologique. Cette parade technologique, c'est la machine de Watt. C'est le couple charbon-vapeur. Le couple charbon-vapeur permet de déplacer les fabriques, les factories, des zones montagnardes où il y avait peu de main-d'œuvre, et donc une main-d'œuvre qui vendait sa force de travail assez cher, vers les zones populeuses où il y a beaucoup de main-d'œuvre potentielle, à Liverpool, à Manchester, et ainsi de suite, où les gens se pressent à la porte des fabriques, d'autant plus qu'on leur a par ailleurs enlevé tous leurs moyens de vie autonome, hein, avec la loi sur les enclosures. Ils ne peuvent plus cultiver la terre, ils ne peuvent plus chasser, ils ne peuvent plus pêcher dans leur communauté. Enfin bon, on a précipité le peuple anglais dans les villes et dans le malheur industriel. Et donc, les gens sont tributaires de ces fabriques et tout va bien pendant un moment. Mais la force hydraulique reste concurrentielle et elle reste concurrentielle en Angleterre jusqu'en 1870. Jusqu'en 1870, la force hydraulique est meilleur marché que la force que le couple vapeur charbon. C'est des histoires très étonnantes et si ça vous intéresse dans le détail, il faut lire L'Anthropocène contre l'histoire de Andreas Malm à la fabrique. Bon, c'est un petit bouquin, mais très éclairant sur le sujet. Donc jusqu'en 70, donc l'énergie hydraulique, quand elle est disponible, est plus économique que la vapeur. Mais, entre-temps, il s'est passé quelque chose en France. En 1869, près de Grenoble, à 10 km de Grenoble, un ingénieur qui s'appelle Aristide Bergès met au point ce qu'il appelle la houille blanche. C'est-à-dire que dans sa papeterie industrielle, il est papetier, hein, il capte les eaux qui descendent de Belledonne avec des conduites, il installe une turbine, et il électrifie son entreprise. Et puis comme c'est un génie de la publicité, il fait des prospectus, il va à l'exposition universelle de Paris, il trouve ce slogan de la houille blanche, et ainsi de suite. Et donc,
il y a une révolution industrielle dans la révolution industrielle. Rapidement, tous ses confrères industriels papetiers du Grésivaudan, le Grésivaudan, c'est la vallée qui va de Grenoble à Chambéry, vont imiter Aristide Bergès. Rapidement, les métallurgistes de la vallée à Alvar et compagnie vont imiter les papetiers, et puis les chimistes, et ainsi de suite. Et donc, de façon télescopique, il va y avoir tout un développement industriel, tout un essor industriel qui va se faire à partir de l'électricité. Papeterie, électrométallurgie, électrochimie, et ainsi de suite. Les industriels, ce sont les notables du coin, ils se font élire maire, ils se font élire conseillers généraux, ils se font élire députés, et ainsi de suite. Ils sont à la fois les patrons du village et les patrons de l'entreprise. Bon, ça se comprend. Et c'est des capitaines d'industrie vigoureux, alertes, intelligents, courageux. C'est pas des gars qui se sont imposés comme ça. Hein. Les choses ne sont pas arrivées tout cuit, tout rôti dans le bec. Ils se donnent du mal, ils sont volontaristes. Et ils comprennent tout de suite, immédiatement, surtout Aristide Bergès qui est ingénieur, que derrière la houille blanche, il y a autre chose qui est la matière grise. Il n'y a pas de houille blanche sans matière grise. Il n'y a pas de houille blanche sans la capacité de comprendre ce que c'est que l'électricité et comment on peut l'utiliser pour faire tourner les machines. Et donc, pour que d'autres machines commencent à tourner, pour qu'on puisse étendre les entreprises, les faire grossir, pour qu'on puisse trouver de nouveaux produits, de nouvelles applications à l'industrie, il faut des cadres à cette industrie. Il faut des ingénieurs, des chercheurs, et ainsi de suite. Utilisant leur double casquette à la fois d'entrepreneurs et d'élus locaux, les industriels vont pétitionner le ministère de l'Éducation nationale pour dire il faut ouvrir à Grenoble un institut d'électrotechnique, il faut nous fournir les ingénieurs, les chercheurs, et ainsi de suite. Ils vont intervenir en tant qu'élus locaux, ils vont faire du lobbying classique. Hein. Bon, ils vont intervenir en tant qu'élus locaux, ils vont intervenir en tant qu'entrepreneurs, et ils vont avoir gain de cause, si bien qu'en 1898, on ouvre un institut d'électronique à Grenoble. Alors cet institut d'électronique, bon, rapidement, il va proliférer lui également. Hein, il va y avoir un institut d'électrochimie, d'électromagnétisme, et puis de fil en aiguille, l'électromagnétisme, le nucléaire, les nanotechnologies. Vous avez là toute une trajectoire technologique à partir de l'électricité. Bon. Ce phénomène s'inscrit dans le paysage. Multiplication des entreprises, transformation des villes et des villages. De son vivant, Aristide Bergès électrifie toute la vallée du Grésivaudan, c'est-à-dire qu'il fonde une compagnie d'éclairage public qui institue l'éclairage dans la moindre bourgade, le moindre village du Grésivaudan, et puis à Grenoble, ainsi de suite. Et même avant la fin du 19e siècle, il y a une compagnie de tramways électriques à Grenoble qui irrigue les villes du Grésivaudan et Grenoble, et ainsi de suite. Vous voyez que ça n'avait rien d'écolo, c'était simplement de la bonne économie, de la bonne industrie bien comprise. Ça rapportait, on l'a fait. Bon. Et puis à un moment donné, la voiture est arrivée, les autocars, et on a enlevé les tramways dans les années 50. Et puis à un moment donné, ça ne marchait plus non plus. Donc maintenant, on remet les tramways à Grenoble. Faire et défaire, c'est toujours travailler, et c'est bon pour le PIB. C'est ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé d'autre, c'est que ces diverses révolutions industrielles et cette activité sans cesse accrue a fait grossir Grenoble. Grossir à la fois du point de vue physique, c'est-à-dire que la ville s'est étalée et toutes les villes de la région se sont étalées dans la vallée, et grossir du point de vue humain, c'est-à-dire que ça a permis de nourrir une population de plus en plus importante et même de faire venir des gens à Grenoble. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un élément clé chez tous nos élus, dont vous avez peut-être entendu parler ici aussi, ça s'appelle l'attractivité du territoire. Le maire d'un village veut devenir le maire d'un gros bourg. Le maire d'un gros bourg veut devenir le maire d'une petite ville. Le maire d'une petite ville veut devenir le maire d'une grosse ville, et ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais ils s'imaginent tous que leur importance est proportionnée à la taille du territoire qu'ils administrent. Il y avait aussi un facteur, institutionnel, économique, dans le fait que plus une ville était grosse, plus elle avait des dotations d'État. Et donc, plus il y avait d'argent à dépenser. Et plus on a un gros budget, plus on a un homme important. Le résultat, c'est qu'une ville comme Grenoble, qui en 18, bon, au moment de la Première Guerre mondiale, avait en gros 40 000 habitants. Petite ville de montagne, petite ville de garnison. Il y avait, on avait surtout des soldats à Grenoble. Il y avait des casernes. Bon. Et puis un peu le cuir, la tannerie. Et puis un peu des vignes autour, du très mauvais vin pour faire boire les soldats. Bon. Là, on se moque. Bon. En un siècle, cette petite ville de 40 000 habitants, entourée de bourgs épars, est passée à la métro. La métro, c'est 49 communes, 450 000 habitants. Et la métro est en train de bouffer la communauté de communes du Grésivaudan, 46 communes, 100 000 habitants, et le Pays Voironnais, ainsi de suite. Et tout ça va faire la Rugue, la région urbaine grenobloise, 700 000 habitants, et ainsi de suite. Bon. Je ne vous fais pas un dessin, c'est notre Paris ici, c'est pareil partout. Bon. Quand vous multipliez la population par 10, vous multipliez ses besoins par 100. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le niveau de vie. Donc les gens veulent des frigos, ils veulent des télés, ils veulent des aspirateurs, ils veulent plein de choses. Ils veulent des augmentations de salaire, ils veulent consommer. Bon. Cette consommation, évidemment, elle ne tombe pas du ciel. Ils sont en partie des producteurs, donc ils produisent pour leur consommation. Et en partie, faisant partie des forces productives, il y a évidemment le travail des scientifiques. Et puis, il y a tout ce qu'on prend dans la nature. On prend dans la nature pour fabriquer ces choses qu'on consomme. Et une fois qu'on les a consommées, ce sont des déchets. Une partie des déchets sont recyclables, mais pas tous. Donc, au bout d'un moment, il y a un problème. Surtout que Grenoble, c'est tout petit, tout petit. Physiquement, c'est tout petit. Le Y grenoblois, c'est deux vallées, bon, on s'entasse. Et il fait très chaud. Donc, à un moment donné, à Grenoble, comme partout, à Grenoble, comme partout, ou comme partout à Grenoble, se pose la question de ressources. Comment on va faire pour donner de l'électricité à tout le monde, puisqu'on parle d'électricité ce soir? Comment on va répartir cette électricité? Comment on va piloter tout ça? Alors, il y a une solution intermédiaire qui intervient en 1946 avec la création d'EDF. Avant EDF, il y a plein de petites sociétés qui existent partout en France sur une base cantonale, régionale, locale, où on produit l'électricité et puis on fournit les gens du coin. En 1946, Grand Progrès, époque de progrès, etc., on décide d'interconnecter tout ça et de nationaliser tout ça. Incidemment, c'est le moment où EDF va récupérer, nationaliser la société du Basacle de Toulouse, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui date du XIIIe siècle. C'est-à-dire que cette société a traversé 7 siècles. C'est la plus ancienne société capitaliste de France. Et ces ingénieurs ne devaient pas être idiots, puisque l'endroit où ils ont posé leur barrage, c'est là qu'EDF va se poser aussi 7 siècles plus tard. Donc, la société du Basacle est nationalisée, comme toutes les petites boîtes autour de Grenoble, enfin, les petites boîtes d'électricité, les microcentrales, et ainsi de suite, et on crée EDF. On crée EDF, et l'expansion repart. Ce sont les 30 Glorieuses. Vous avez dû en entendre parler pour les plus anciens d'entre vous, comme moi. Mais on continue à prendre dans l'environnement. Et à un moment donné, il y a un effet de ciseau. Il arrive quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler dans les années 70, dont on a dû vous parler des gens bizarres qui avaient des cheveux longs, des chemises à fleurs, des pantalons, un peu indiens, etc., qu'on appelait les hippies. Les oiseaux de mauvaise augure, les prophètes de malheur, et ainsi de suite. Bref, les écologistes, à un moment donné, on vous dit, on arrive au bout, on arrive aux limites. On ne peut pas prendre plus en environnement, la Terre est en surchauffe. Il faudrait 9 planètes comme la nôtre pour subvenir aux besoins d'un occidental moyen. Et tout le monde veut être occidental. Les Africains veulent être occidentaux, les Chinois veulent être occidentaux, les Asiatiques veulent être occidentaux. Ils ne veulent pas être occidentaux, chrétiens, baptisés, etc. Non, ça, ils s'en foutent. Mais ils veulent avoir un frigo, une télé, un ordinateur portable, et ainsi de suite. Bon. Et si on fait ça, la planète explose. Et déjà, c'est en surchauffe. C'est plus les hippies qui vous le disent, c'est plus les écolos, c'est plus les rabat-joie, c'est l'Académie des sciences et technologies. ce sont les gouvernements, c'est le GIEC. Et à partir du moment où on fait ça, ça veut dire qu'il va falloir régir d'une main de fer la consommation et la production d'électricité. Et donc, on avait déjà ce pilotage centralisé de EDF, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir un outil encore plus puissant et encore plus précis. Alors, cet outil encore plus puissant et encore plus précis, on y travaille, nous, à Grenoble. Ouais, ouais. Après Aristide Bergès, ça a continué. Et donc, dans cet institut polytechnique qui avait été créé pour aider les industriels qui entouraient Aristide Bergès lui-même, en 2012, ERDF, qui est l'ancêtre d'Enedis, enfin pas l'ancêtre, mais la boîte d'Enedis, c'est Enedis qui a changé de nom, quoi, a financé une chaire d'excellence sur les smart grids, c'est-à-dire en bon français, les réseaux intelligents. Les réseaux intelligents, c'est le binôme, c'est le complémentaire de Linky. Linky, c'est le capteur intelligent. Les réseaux intelligents, c'est pour faire fonctionner Linky. C'est pour que Linky puisse remonter ses informations et recueillir ses informations. Et c'est là qu'on en est maintenant.